Troisième partie. Minuit dans la rue Jules Verne. Chapitre 8. Archipel. Les îles. Thor, fuseau, axe, amas. ADN humain qui s'écoule des bords escarpés d'un puits de gravité comme une tache d'huile. Générer un affichage graphique qui simplifie grossièrement les échanges de données dans l'archipel L5. Un segment clignote en rouge dense, rectangle massif, qui domine tout votre écran. Zone libre. Zone libre représente quantité de choses. Pas toujours évidente pour les touristes qui font la navette du haut en bas du puits. Zone libre est un bordel et une place bancaire. Un dôme du plaisir et un port franc. Une ville frontière et une ville d'eau. Zone libre, c'est Las Vegas et les jardins suspendus de Babylone. Une Genève en orbite et le domicile d'une famille fortement consanguine aux éléments soigneusement sélectionnés, le clan industriel de Tessier et Hachepoul. À bord du long courrier qui, à destination de Paris, ils voyageaient ensemble en première, Molly dans le fauteuil près de la fenêtre, Kez à côté d'elle, Riviera et Armitage côté couloir. Un moment, alors que l'appareil virait au-dessus de l'eau, Kez entrevit l'éclat de joyaux d'une ville insulaire grecque. Et un autre moment, alors qu'il prenait son verre, il entrevit une paillette analogue à quelques spermatozoïdes humains géants dans les profondeurs de son bourbon à l'eau. Molly se pencha au-dessus de lui pour gifler Riviera une seule fois. « Non, mon chou, pas de ce jeu-là. Tu recommences tes petites conneries subliminales près de moi, je te fais vraiment mal. Je peux le faire sans le moindre dégât apparent pour toi, j'adore ça. » Kez se tourna automatiquement pour vérifier la réaction d'Armitage. Le visage lisse était calme, les yeux bleus vifs, mais il n'y avait aucune colère. « C'est vrai, Peter, ne faites pas ça. » Kez se retourna, juste à temps pour saisir l'image fugitive d'une rose noire, pétales lustrés comme le cuir, tiges noires couvertes d'épines de chrome étincelant. Peter Riviera fit un doux sourire, ferma les yeux et s'endormit instantanément. Molly se détourna, reflet de ses lentilles dans le hublot obscur. « T'es déjà monté, n'est-ce pas ?» demanda Molly, tandis qu'il se calait en se trémoussant dans la mousse épaisse de la navette des jales. « Nan, je voyage jamais beaucoup. » Sinon pour affaire. Le steward lui fixait les trottes de lecture au poignet et à l'oreille gauche. « J'espère que tu choperas pas le sas. »« Le mal de l'air ? Aucun risque. »« Le mal de l'espace, c'est pas pareil. »« Ton rythme cardiaque accélère en gravité zéro et ton oreille interne se met à débloquer durant un petit moment. »« Ça te déclenche tes réflexes de fuite, comme si tu recevais des signaux pour détaler à toute berzingue » et ça t'envoie des flopées d'adrénaline. Le steward passa à Riviera, sortant son nouveau jeu d'électrodes de son tablier de plastique rouge. Kez tourna la tête et chercha à distinguer la silhouette des vieux terminaux d'Orly, mais l'aire d'atterrissage de la navette était clôturée par de gracieux déflecteurs de souffle en béton mouillé. Celui le plus proche du hublot portait un slogan en arabe bombé à la peinture rouge. Il ferma les yeux et se dit que la navette n'était jamais qu'un gros avion, un qui volait très haut. À l'intérieur, ça sentait comme dans un avion, odeur de vêtements neufs, de chewing-gum et d'épuisement. Il attendit, écoutant un air de coteau diffusé par les haut-parleurs. 20 minutes, puis la gravité lui tomba dessus comme une grande main douce aux eaux mégalithiques. Le syndrome d'adaptation spatiale était pire que la description faite par Molly. Mais il se dissipa assez vite, et Kez fut alors capable de dormir. Le steward l'éveilla au moment où il s'apprêtait à aborder sur l'amas du terminal de la jale. « On change tout de suite pour zone libre » demanda-t-il tout en lorgnant un fragment de tabac de Ye Eyuan qui avait dérivé gracieusement hors de sa poche de chemise pour venir danser à 10 centimètres de son nez. Il était interdit de fumer à bord des navettes. « Non. Toujours les mêmes plans tordus du patron. Tu connais, non ? On prend ce taxi pour Sion ? L'amas de Sion ? Elle effleura la plaque de verrouillage de son harnais et commença à se libérer de l'étreinte de la mousse. Drôle de voix pour un rendez-vous, si tu veux mon avis.
Comment ça ?
Des affreux, des rastas. La colonie a dans les 30 ans à présent.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Tu verras. Enfin, moi, j'y vois pas l'inconvénient. En tout cas, ils te laisseront toujours fumer tes clopes.
Sion avait été fondée par 5 travailleurs qui avaient refusé de rentrer, qui avaient tourné le dos au puits et commencé à construire de leur côté. Ils avaient souffert de déficiences calciques et de défaillances cardiaques avant que la gravité centrifuge ne fût établie dans le tore central de la colonie. Vue depuis la bulle du taxi, la coque bricolée de Sion évoquait pour Kez le patchwork des taudis d'Istanbul avec les plaques irrégulières et décolorées griffonnées au laser de symboles rastafari et des initiales des soudeurs. Molly et un sionite, décharné du nom d'Aérol, aidèrent Kaz à négocier le corridor en impesanteur qui menait au cœur du tor de plus petite taille. Il avait perdu la trace d'Armitage et de Riviera dans le sillage de sa seconde crise de vertige sas. « Là !» dit Molly en lui fourrant les jambes dans une étroite écoutille au-dessus de leur tête. « Attrape les barreaux. Fais comme si tu grimpais à reculons. Vu ? Tu te diriges vers la coque, sous une pesanteur normale. C'est comme si tu descendais. Pigé ?» Kez sentit son estomac se retourner. « Ça ira, Mac !» dit Aérol, sourire crocheté d'incisive en or. Quelque part, le bout du tunnel était devenu son fond. Kez embrassa la faible gravité comme un noyé trouve une poche d'air.
« Debout !» fit Molly.
« Non mais, tu vas peut-être baiser le sol ?»
Kez était étendu à plat ventre sur le pont, bras écartés. Quelque chose lui frappa l'épaule. Il se retourna et vit une bonne longueur de câble élastique.
« Faut jouer leur jeu, lui dit-elle. Aide-moi donc à attacher ça. »
Il regarda autour de lui, le vaste espace vide, et remarqua des anneaux d'acier soudés sur chaque surface, apparemment au hasard. Une fois les câbles attachés, selon un schéma complexe défini par Molly, ils y suspendirent des bâches de plastique jaune usées. Tandis qu'ils travaillaient, Kez prit peu à peu conscience de la musique qui pulsait en permanence dans tout l'amas. C'était du dub, une mosaïque sensuelle cuisinée à partir de vastes bandothèques, de pop numérisés. Ça relevait du culte, disait Molly. C'était une expression du sens communautaire. Kez soupesa l'une des toiles jaunes. La matière était légère, mais raide encore. Sion fleurait les légumes cuits, l'humanité et la ganja.
« Bien, dit Armitage, glissant, jambes ballantes à travers les coutilles, et contemplant d'un air appréciateur le dédale de toile.
Riviera le suivit, moins assuré dans la gravité partielle.
« Où vous étiez, vous, quand on avait besoin de vous ?» demanda Kez à Riviera.
L'homme ouvrit la bouche pour parler. Une petite truite en sortit, suivie d'un improbable sillage de bulles. Elle glissa le long de la joue de Kez.
« Aux chiottes !» dit Riviera, et il sourit.
Kez rigola.
« À la bonne heure, dit Riviera. Vous pouvez rire. Je vous aurais aidé volontiers, mais je ne suis pas adroit de mes mains. »
Il les éleva, paumes ouvertes, et soudain elles doublèrent. 4 bras, 4 mains.
« Toujours le clown innocent, Riviera, c'est ça !» s'interposa Molly.
« Toué, dit Aérol depuis l'écoutille. « D'veux bien venir avec, cow-boy, Mac ?»«
C'est votre console, dit Armitage. Et le matos de l'autre. Aidez-le à décharger ça de la soute. »«
T'm'as l'air bien pâle, Mac !» fit Aérol, comme il guidait le Osaka bien empaqueté de mousse le long du corridor central. « D'veux peut-être manger quelque chose ?»
Kez sentit sa bouche s'inonder de salive. Il hocha la tête. Armitage annonça un séjour de 8 heures à Sion. Molly et Kez s'entraîneraient en gravité zéro, disait-il, et s'acclimateraient à y travailler. Il allait les briefer sur zone libre et la villa lumiérante. La mission de Riviera demeurait mal définie. Mais Kez ne se sentait pas d'humeur à poser des questions. Quelques heures après leur arrivée,
Armitage l'avait expédié dans le dédale jaune pour le charger d'inviter Riviera à dîner. Il avait retrouvé ce dernier blotti comme un chat sur une mince plaque de mousse, nu, apparemment endormi, avec en orbite autour du crâne une auréole en rotation de petites formes géométriques blanches, cubes, sphères et pyramides.
Hé, hey, Riviera !
L'anneau tournait toujours. Kez était revenu le dire à Armitage.
« Il est défoncé !» déclara Molly, quittant des yeux son flécheur en pièces détachées.
« Laisse courir !» Armitage semblait estimer que la gravité zéro affecterait la capacité de Kez à opérer dans la matrice.
« Pas de lézard !» protesta ce dernier. « Je me branche et je ne suis plus là, c'est pareil. »«
Votre taux d'adrénaline est plus élevé, » remarqua Armitage.
« Vous êtes encore en sas. Vous n'aurez pas assez de temps pour que ça passe. Vous allez devoir apprendre à travailler avec. »«
Alors, je lance donc ma passe d'ici ?»«
Non, juste un entraînement, Kez.
Maintenant, prenez le corridor. » Le cyberspace, tel que le représentait la console, n'avait pas de relation particulière avec l'environnement physique dans lequel celle-ci se trouvait. Lorsque Kez se brancha, ses yeux, en s'ouvrant, retrouvèrent la configuration familière de la pyramide de données de l'électronucléaire de la côte Est.
« Comment va, Dixie ?»«
Je suis mort, Kez. J'ai passé assez de temps sur cet Osaka pour en déduire au moins ça. »«
Quel effet ça fait ?»«
Aucun. »«
Ça t'embête ?»«
Ce qui m'embête, c'est que rien m'embête. »«
Comment ça ?»«
J'ai eu un pote en camp chez les Russes en Sibérie. »« Il avait eu le pouce gelé. » Les toubibs se pointent et l'amputent. Un mois après, v'là qui se démène toute la nuit.
Elroy, que je lui dis, qu'est-ce qu'il te bouffe?
Ce putain de pouce qui me démange, qui me dit.
Alors je lui dis, gratte-le.
Mike Coy, qui me fait, c'est l'autre putain de pouce.
Quand le construct se mit à rire, cela sortit comme autre chose. Non pas un rire, mais un aiguillon de glace qui dévala le long de l'échine de Kez.
Rends-moi un service, gamin.
« Lequel, Dixie ?
Tes magouilles, là, dès que c'est fini, tu m'effaces tout ça. »
Kez ne comprenait rien au sionite.
Aérole, sans provocation particulière, narra l'histoire du bébé qui avait jailli de son front pour partir gambader dans une plantation de ganja hydroponique.
« Touche-t'y, bébé, Mac, pas plus long que ton doigt !»
Il frotta de la paume son grand front brun, parfaitement lisse, et sortit.
« C'est la ganja !» commenta Molly, quand Kez lui rapporta le récit.
« Ils ne font guère de différence entre les divers états, tu comprends ?»«
Aréol te dit que c'est arrivé, bon, eh bien ça lui est arrivé à lui. C'est pas des cracks, plutôt de la poésie, tu saisis ?»
Kez opina, dubitatif.
« Les sionites vous touchaient toujours quand ils vous parlaient, les mains posées sur votre épaule.
Ils n'aimaient pas ça. »
Hé, Aréole, lança Kez une heure plus tard, comme il s'apprêtait à une passe d'entraînement dans le corridor en chute libre.
Viens donc ici, mec. Je voudrais te montrer ce truc.
Il lui tendit l'étrode.
Aérole exécuta une pirouette au ralenti. Ses pieds nus se plaquèrent contre la paroi d'acier et d'une main libre, il saisit une poutrelle.
L'autre tenait une outre transparente, gonflée d'algues bleu-vert.
Il cligna doucement de l'œil, tout sourire.
« Essaye un coup, » dit Kez.
Il prit le bandeau, le passa et Kez ajusta l'étrode. Il ferma les yeux.
Kez pressa l'interrupteur.
Aérole frémit. Kez le redébrancha.
« Qu'est-ce que t'as vu, mec ?»«
Babylone !» dit Aérole tristement, lui restituant l'étrode avant de se propulser d'un coup de pied vers le bout du corridor.
Riviera était assis, immobile, sur sa plaque de mousse, le bras droit raide étendu au niveau de l'épaule. Un serpent aux écailles de joyaux, les yeux comme des néons de rubis, avait enroulé ses anneaux serrés à quelques millimètres derrière son coude.
Kez regarda le serpent, épais comme le doigt, et rayé de noir et d'écarlate, se contracter avec lenteur, resserrant son étreinte autour du bras de Riviera.
« Allez, viens !» dit l'homme, en caressant le pâle scorpion cireux, dressé au centre de sa paume retournée.
« Viens !»
Le scorpion fit danser ses pinces brunâtres et lui détala le long du bras.
les pattes suivant le sombre itinéraire des veines. Parvenu au creux du coude, il s'arrêta et parut se mettre à vibrer. Riviera poussa un léger sifflement. L'aiguillon se dressa, frémit, et s'enfonça dans la paume, juste au-dessus d'une veine saillante. Le serpent de corail relâcha son étreinte, et Riviera poussa un lent soupir quand l'injection fit son effet. Puis, serpent et scorpion disparurent, et il se retrouva, une seringue de plastique blanc laiteux dans la main gauche. Si Dieu a créé quelque chose de mieux, il se l'est gardé pour lui. Vous connaissez l'expression, Kez ?
Ouais, dit Kez. Je l'ai entendu appliquer à quantité de choses différentes. Vous faites toujours le même petit cinéma ?
Riviera desserra l'élastique du garrot chirurgical et le retira de son bras.
Oui, c'est plus marrant.
Il sourit, le regard désormais lointain, le rouge aux joues.
J'ai fait poser une membrane, juste au-dessus de la veine. Comme ça, je n'ai plus à me soucier de l'état de propreté de l'aiguille.
Ça fait mal ?
Les yeux brillants croisèrent son regard.
Bien sûr que ça fait mal. Ça fait partie du jeu, non ?
Moi, je me sers simplement de derme, dit Kez.
Ouah, le plouc ! Railla Riviera. Et il rit en renfilant une chemise de coton à manches courtes.
Ça doit quand même être chouette, insista Kez en se relevant.
Alors, on se défonce aussi, Kez ?
J'ai dû décrocher.
Zone libre, annonça Armitage en effleurant les commandes du petit holoprojecteur Braun. L'image frémit, puis devint nette, presque 3 mètres de bout en bout.
Les casinos sont ici.
Il tendit la main à l'intérieur de la représentation en fil de fer et pointa le doigt. Hôtel, niveau de propriété, zone commerciale, de ce côté. Sa main se déplaça. Les secteurs bleus sont des lacs. Il se dirigea vers l'une des extrémités du modèle. Un gros cigare. Il se rétrécit à chaque bout.
Ça, on n'a pas de mal à le voir, dit Molly.
Effet de montagne, à mesure du rétrécissement. Le sol paraît s'élever, devenir plus rocailleux, mais l'escalade est facile. Plus on grimpe, plus faible est la gravité. Les aires de sport sont là-haut. L'anneau du vélodrome est ici.
Il pointa.
« Le quoi ?» demanda Kez en se penchant.
« Ils font des courses de vélo, » expliqua Molly.
« Faible gravité, pneus à adhérence renforcée. Ils dépassent le 100 à l'heure. »«
Cette extrémité ne nous concerne pas, » déclara Armitage avec son parfait sérieux habituel.
« Merde !» dit Molly. « Moi qui suis une mordue de la pédale. »
Riviera gloussa.
Armitage se dirigea vers l'autre extrémité de la projection.
« En revanche, celle-ci, oui. »
Les détails d'aménagement intérieur de l'hologramme s'achevaient ici, et le segment terminal du cigare était vide. Là, c'est la villa lumiérante. Ascension difficile pour sortir de la gravité, et toute approche est coton. Il y a une seule entrée, ici, en plein milieu, gravité zéro.
« Y a quoi là-dedans, patron ?»
Riviera se pencha en se dévissant le cou. 4 silhouettes minuscules scintillaient près de l'extrémité du doigt d'Armitage. Celui-ci les chassa comme de vulgaires moucherons.
« Peter, dit Armitage, vous allez être le premier à le découvrir. Vous tâcherez de vous faire inviter. Une fois à l'intérieur, vous vous arrangerez pour que Molly entre à son tour. »
Kez fixait le vide qui représentait lumiérante, en se souvenant du récit du Finnois. Smith, Jimmy la tête parlante et le ninja.
Détails disponibles ? Demanda Riviera.
J'ai besoin de préparer une garde-robe, voyez-vous.
Apprenez déjà les rues, l'interrompit Armitage en regagnant le centre du modèle.
Ici, Desiderata Street. Là, la rue Jules Verne.
Riviera roula des yeux.
Tandis qu'Armitage récitait les noms des avenues de zone libre, une douzaine de pustules écarlates fleurirent sur son nez. Ses joues, son menton. Même Molly rigola.
Armitage se tut, les considéra tous les trois de ses yeux vides et froids.
« Désolé, » dit Riviera, et les boutons clignotèrent et disparurent.
Kez s'éveilla tard durant la période de sommeil et prit conscience de la présence de Molly, tapie près de lui sur la mousse. Il pouvait percevoir sa tension. Il resta immobile et perplexe. Lorsqu'elle bougea, la simple vitesse de son mouvement l'abasourdit.
Elle était levée et passée de l'autre côté de la feuille de plastique jaune avant qu'il ait eu le temps de s'apercevoir qu'elle l'avait ouverte en la déchirant.
« Pas un geste, l'ami !»
Kez roula sur lui-même et passa la tête par la déchirure du plastique.
« Que ? La ferme ! C'est toi, Mac ?» dit une voix de Sion.
« Œil de chat, Cassapelle. Cassapelle, rasoir d'encens. Moi, c'est Maelkoum, frangine. Les frères voudraient ben converser avec Twé et le cow-boy.
Quels frères ?
Les fondateurs, Mac. Les anciens de Sion, on sait. »
On ouvre l'écoutille et la lumière va réveiller le patron, murmura Kez.
Qu'à faire le noir maintenant, dit l'homme. Allez, venez. Moi et moi, on va se rendre une visite au fondateur.
Tu sais que je pourrais te saigner vite fait, l'ami.
Reste pas là à causer, frangine, viens.
Les deux derniers survivants des fondateurs de Sion étaient des vieillards, vieux de cette vieillesse accélérée qui emporte les hommes qui ont passé trop d'années hors de l'emprise de la gravité. Leurs jambes noires, rendues cassantes par la perte de calcium, semblaient bien fragiles dans la lueur crue du soleil reflété. Ils flottaient au centre d'une jungle peinte au feuillage arc-en-ciel, une fresque communautaire gueularde qui recouvrait entièrement la paroi de la chambre sphérique. L'air était lourd d'une fumée résineuse.
« Rasoir d'encens !» dit l'un d'eux au moment où Molly pénétrait en flottant dans la chambre.
« Comme elle l'était le bout d'un fouet !»«
C'est une histoire à nous, sœur, dit l'autre, un récit religieux. Nous sommes heureux que vous soyez venus avec Maelkoum. »
« Comment se fait-il que vous ne parliez pas le patois ?» demanda Molly.
« Je suis originaire de Los Angeles, dit le vieillard. Ses nattes étaient comme un arbre enchevêtré aux branches couleur laine d'acier. Il y a bien longtemps, j'ai grimpé le puits de gravité pour sortir de Babylone et ramener les tribus chez elles. Maintenant, mon frère t'assimile à rasoir d'encens. »
Molly tendit la main droite et les lames étincelèrent en un éclair dans l'air enfumé. L'autre fondateur rit, la tête rejetée en arrière.
Bientôt viendront les derniers jours, des voix criant dans le désert pour prophétiser la ruine de Babylone.
Des voix, le fondateur, venu de Los Angeles, fixait Kez.
Nous surveillons quantité de fréquences, nous écoutons toujours. Une voix est venue, jaillie de la Babel des langues, qui nous a parlé. Elle nous a joué un dub puissant.
« Cassapelle muette d'hiver !» reprit l'autre en séparant le nom en deux mots.
Kez sentit la chair de poule lui grimper sur les bras.
« Le muet nous a parlé, » dit le premier fondateur. « Le muet nous a dit de vous aider. »«
Quand était-ce ? » demanda Kez.
« 30 heures avant que vous abordiez à Sion. »«
Déjà entendu cette voix auparavant ?»«
Non, » dit l'homme de Los Angeles.
« Et nous ne sommes pas certains de sa signification. »
Si ce sont bien les derniers jours, il faut s'attendre à voir apparaître de faux prophètes.
Écoutez, dit Kez, c'est une IA, vous connaissez, une intelligence artificielle.
La musique qu'elle vous a jouée, sans doute qu'elle l'a repiquée sur vos propres banques pour vous concocter de qui, estimait-elle, aurait l'heure de vous plaire.
Babylone, interrompit l'autre père fondateur, engendre bien des démons. Moi et moi, on le sait. Des hordes, des multitudes.
Comment m'as-tu appelé déjà, vieil homme ? Demanda Molly.
Rasoir d'encens. Et tu apportes un fléau sur Babylone, sœur, au plus sombre de son cœur.
Quel genre de message a donné la voix ? Demanda Kez.
On nous a dit de vous aider, dit l'autre, car vous pourriez servir d'instrument pour les derniers jours.
Son visage ridé était perplexe.
On nous a dit d'envoyer Maelkoum avec vous, avec son remorqueur, le Garvet, pour regagner Babylone par le port de zone libre.
Et c'est ce que nous allons faire.
Maelkoum, l'est un solide gaillard, dit l'autre, et un fier pilote de remorqueur.
Mais nous avons néanmoins décidé d'envoyer également Aréole, avec son Babylone Rocker, pour veiller sur le Garvet.
Un silence gêné emplit le dôme.
Alors c'est ça ? Demanda Kez.
Les mecs, vous travaillez pour Armitage ou quoi ?
Nous voulons de l'espace, dit le fondateur de Los Angeles. Nous sommes plus ou moins impliqués ici dans divers trafics.
nonobstant la loi de Babylone. Notre loi à nous est le verbe de Jah, mais cette fois, il se pourrait bien que nous ayons été induits en erreur.
T'mesure deux fois, t'coupe une seule, nota l'autre doucement.
Allez, qu'est-ce, fit Molly. Rentrons avant qu'ils s'aperçoivent qu'on est parti.
Maïkoum vous ramène. L'amour de joie soit sur toi, sœur.